France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, il y avait un peuple étrange qui obsédait les Grecs. Un peuple qui semblait n'obéir à aucune règle normale. Il était différent, insaisissable. Il bougeait tout le temps. On le situait un peu partout. Dans des zones lointaines du monde, au nord, à l'est, sur les bords de la mer Noire, en Afrique. À tout moment, il pouvait surgir, déferler et faire des ravages. Il fascinait, il séduisait, mais il était hors de question de le laisser faire. Il fallait à tout prix le vaincre. C'était un peuple de femmes, de guerrières à cheval, les Amazones, très souvent victorieuses et conquérantes. Elles se lançaient dans des cavalcades infinies et régnaient sur de vastes parties du monde. Depuis l'Ukraine actuelle, au bord du fleuve Tanaïs, le Don, jusqu'à la Cappadoce, en Turquie, et aux régions de l'Atlas, en Afrique, en passant par le Chott El Djerid, en Tunisie.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Ces femmes portent des noms flamboyants, qui sonnent forts et clairs. Ils disent leur puissance. Aella, la tempête. Bremoussa, tonnante. Hippotoé, cheval rapide. Eurybia, vaste force. Alcipé, vigueur du cheval. Phoibé, lumineuse. Hippolyté, qui dénoue les chevaux. L'opposition au masculin peut être nette. Elle s'appelle aussi Deianeira, tueuse d'hommes. Antandré, ennemi des hommes ou qui vaut les hommes. Andromaché, qui combat les hommes.
Qui êtes-vous? Qui vous a autorisé à entrer dans l'île?
Je ne savais pas qu'il fallait une autorisation. Nous sommes descendus à terre pour faire des réparations et pour nous ravitailler. Mais sans l'intention de penser à vous nuire.
Jetez ces armes immédiatement. Allons chez la reine, elle seule décidera.
Les Amazones ne vivaient vraiment pas comme les Grecs. Au lieu de rester au foyer, comme le devaient les femmes grecques, ou plutôt comme des hommes grecs disaient que leurs femmes le devaient, les Amazones étaient dehors tout le temps, à cheval, pour faire la chasse ou la guerre, activité qui était normalement réservée au genre mâle. Chez elles, les hommes n'avaient pas le beau rôle. On peut dire des Amazones qu'elles étaient
une troupe qui a horreur des hommes.
Oui, les Amazones n'ont pas d'hommes à leur côté. Elles ont décidé d'exclure l'élément mâle depuis un certain nombre d'années. Elles accueillirent les marins qui débarquèrent dans l'île. Ce fut elles qui les tuèrent.
Tuèrent tous les hommes?
En éprouvant une sensation de libération. Peu à peu, toutes les anciennes moururent, avertissant leurs filles des dangers. Elles comprirent. Et éprouvèrent à leur tour l'étrange fierté que laisse l'autorité quand le sexe masculin est mis à l'écart.
Comme elles n'étaient vraiment pas comme il faut d'un point de vue masculin, on parlait beaucoup d'elles et on leur prêtait beaucoup d'horreur. C'était facile. Aucun grec, aucune grecque n'avait jamais vu d'Amazone. C'était un peuple mythique qu'on pensait disparu. Les Amazones servaient à exprimer bien des fantasmes. On était libre. À travers elles, on disait ce qu'on pensait de la différence entre les hommes et les femmes. C'était, comme toujours, un sacré problème. Certains auteurs ne se privaient pas d'insister sur ce que ces Amazones avaient d'horrible. Les Amazones leur paraissaient fascinantes, mais monstrueuses. Un historien grec du 1er siècle avant notre ère, Diodore de Sicile, les dit féroces avec les hommes. Les Amazones, selon lui, vivaient au bord de la mer Noire, sur la côte sud de cette mer, à l'embouchure d'un fleuve. C'était une société où les femmes avaient le pouvoir. Il y avait des hommes, mais ils étaient soumis.
Ici, ce n'est pas l'individu qui compte, mais l'ensemble de la collectivité. Les vierges guerrières, ces jeunes filles pures sur qui notre royaume a basé sa puissance, ne peuvent pas, ne doivent pas être effleurées par la main impure d'un homme.
Sauf à l'instant opportun.
Les hommes sont une race inférieure.
Ce peuple s'est développé. Il est allé de victoire en victoire. Il a multiplié les conquêtes grâce au courage et à l'intelligence d'une reine.
L'une d'entre elles, dit-on, qui avait autorité royale, se distingua par sa vaillance et sa force. Elle réunit une armée de femmes, l'entraîna et triompha de certains de ses voisins. la vertu et la gloire qui l'apparaît allaient s'augmentant. Elle lança d'incessantes expéditions contre les nations proches et, comme le succès était aisé, elle se gonfla d'orgueil. Elle prit pour nom « fille d'Arès » et elle assigna aux hommes le travail de la laine ainsi que les travaux domestiques réservés d'ordinaire aux femmes. Par les lois qu'elle promulgua, elle incitait les femmes au combat guerrier et maintenait les hommes dans l'humiliation et la servitude.
On a tout simplement une société inversée par rapport aux cités grecques normales. C'est donc la preuve que la capacité à faire les travaux de la guerre appartient aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Même chose pour les travaux domestiques. Mais pour intervertir des rôles qui passent à tort pour naturel et faire des femmes des guerrières et des hommes au foyer, il fallait corriger un peu la nature. Les hommes sont dotés de bras et de jambes bien musclés, s'ils savent s'entraîner. Ils peuvent facilement devenir des guerriers. Les Amazones devaient les en empêcher. Elles n'y allaient pas par quatre chemins.
À la naissance, elles mutilaient les jambes et les bras des mâles, les rendant inaptes aux fonctions guerrières.
Quant aux femmes, il fallait qu'elles deviennent des cavalières très mobiles, aptes à pulvériser au galop de grandes distances. Leurs armes étaient la lance, la hache à double tranchant, un bouclier léger en forme de croissant de lune. Et surtout, elles tiraient à l'arc. Cette arme va bien avec la vitesse des chevaux. Mais la poitrine était une gêne. Là aussi, il fallait corriger la nature, sans hésiter.
On brûlait le sein droit des filles pour qu'il ne les gênât pas en faisant saillie. C'est la raison qui explique le nom que reçut le peuple des Amazones.
Les Grecs anciens analysaient en fait le mot « Amazone » comme étant composé d'un élément négatif, « a », comme dans « amorphe », atypique, et du mot « mazos », qui signifie « le sein ». Les Amazones seraient des femmes privées d'un sein. En fait, on ne sait pas d'où vient le mot, mais c'est ce qu'on disait, et ça parlait. Il existe donc une différence naturelle entre les femmes et les hommes, mais elle ne compte pas. S'il y a la volonté politique d'instaurer un pouvoir féminin. La nature, ça se change. Tout est affaire d'éducation, de chirurgie plutôt intrusive, si on peut dire, et de contraintes politiques. Un corps, ça se décide. Les Amazones ainsi éduquées firent d'immenses conquêtes, de la côte turque de la mer Noire jusqu'à l'Ukraine, qu'elles pénétrèrent jusqu'au fleuve Tanaïs, le Don. La reine qui avait créé tout cela mourut dignement dans une belle bataille et fut très célébrée, comme un homme.
En résumé, cette femme, dont l'intelligence et l'habileté stratégique étaient remarquables, fonda une ville importante à l'embouchure du Thermodon, nommée Thémiskyra, où elle édifia une résidence royale célèbre. Accordant une extrême attention à la discipline dans ses expéditions, elle commença par vaincre tous ses voisins jusqu'au Tanaïs. Et après avoir accompli ses actions, au terme d'un combat où elle s'illustra en luttant, elle perdit la vie comme un héros.
Le masculin reste la référence. Mais c'est précisément cela qui met les hommes en danger. Si les hommes sont d'abord une fonction dans la société, on peut facilement les remplacer. Hérodote, un autre historien, qui a vécu beaucoup plus tôt, à la grande époque d'Athènes, l'époque des Périclès, Sophocle, au 5e siècle avant Jésus-Christ, donne une toute autre image des Amazones. Elles sont bien une cité des femmes, mais les hommes y ont plus de place et elles ne sont pas cruelles. Hérodote raconte l'errance des Amazones et comment elles ont pu, avec des mâles, créer une société libre en Ukraine. Tout commence dans cette ville dont on vient de parler, au bord du fleuve appelé Thermodon, qui se jette dans la mer Noire. Dans cette histoire, les Amazones doivent quitter cette ville. Les Amazones la perdent. La ville est prise, on ne sait pas bien quand, ni pourquoi, par des Grecs. Ces Grecs, bien virils, les font prisonnières et les embarquent sur un bateau. Elles se révoltent, jettent à la mer leurs geôliers. Mais elles n'ont pas appris à naviguer. Elles laissent leur bateau dériver sur la mer Noire, vers le nord. Elles arrivent bien au-delà du pont qu'a récemment construit Poutine pour consolider son annexion de la Crimée. Elle touche terre tout au fond de ce qui s'appelle maintenant la mer d'Azov. C'est le pays des Scythes. Ça s'écrit S-C-Y-T-H-E. Un peuple nomade, des cavaliers qui vivent sur des roues. Leurs villes mouvantes sont faites de chariots. Ils sont insaisissables, toujours en mouvement, selon le poète Eschyle.
Les Scythes, peuple vagabond qui habite sans toucher terre des maisons tressées, portés par des chars aux fortes roues. Ils sont équipés d'arcs qui tirent loin.
Violaine Sébillotte-Cuchet, historienne.
L'archéologie soviétique, en fait. Hein. Depuis les années 20, puis années 80, cette archéologie soviétique, elle a mis au jour ce qu'on appelle des kourganes, tumulus et tombes à tumulus, dans lesquelles on a retrouvé effectivement des sépultures de femmes avec des armes à leur côté et avec parfois des blessures provoquées par des lances ou par des flèches, une en particulier en Colchide, et parfois même des courbures du fémur, enfin, qui indiquent que c'était des cavalières. Et donc ce sont donc des éléments qui corroborent l'idée que dans ces régions-là, des femmes participaient au combat.
Dis-moi qui diable m'envoie ces hordes de chevaux que je me je ne sais faire que ça. Et quand le diable m'emporte, je retaille mes crayons pour en faire des flèches pour les garçons. Et là mon cœur se sauvage, les attrape au l'assaut. Par mon arc pointé grâce, pour mon âme blessée, par ses piques lancées, il me faudra pardonner son inhumanité à cette femme, moi morte et enterrée.
Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de Lacombe parle de la société des Amazones, ces drôles de dames.
Les Amazones débarquent, voient des chevaux qu'elles apprivoisent aussitôt. Elles forment une armée de cavalières et commencent à piller le pays. Les habitants, les Scythes, n'en reviennent pas. Ils ne connaissaient pas ces adversaires. Ils ne peuvent pas imaginer que ce sont des femmes. L'historien Hérodote continue son récit.
Les Amazones se mirent à piller les biens des Scythes. Les Scythes ne pouvaient s'expliquer l'événement car ils ne connaissaient ni la langue, ni le costume, ni le peuple des Amazones. Et ils se demandaient avec étonnement d'où elles venaient. Ils les prenaient pour des hommes du même âge et engagèrent contre elles le combat. Mais s'étant, à l'issue du combat, emparés de cadavres, ils reconnurent que c'étaient des femmes.
Les Scythes sont perplexes. Ils décident finalement qu'ils peuvent utiliser ces femmes au lieu de leur faire la guerre. Elles leur feront de braves enfants. Ils envoient donc leurs plus beaux jeunes hommes camper près des Amazones avec ordre de s'abstenir de toute hostilité. Les Amazones voyant qu'ils sont inoffensifs, les laisse s'installer. Une séduction commence.
Chaque jour, l'un des camps se rapprochait de l'autre. Les jeunes gens n'ont plus que les Amazones, n'avaient rien que leurs armes et leurs chevaux. Et ils vivaient de chasse et de pillage.
Décidément, ces hommes et ces femmes se ressemblent. Les approches commencent.
Vers le milieu du jour, les Amazones agissaient de la sorte. Elles se dispersaient une par une, deux par deux, s'écartant ça et là et loin des autres, pour faire leurs nécessités. Les Scythes s'en aperçurent et agirent de même. L'un d'eux aborda l'une des isolées. L'Amazone ne le repoussa pas, mais le laissa jouir de sa personne. Ne pouvant pas lui parler, car ils ne se comprenaient pas l'un l'autre, elle lui fit signe de la main de venir le lendemain au même endroit et d'en amener un second, lui donnant à entendre qu'elle lui amènerait elle-même une seconde femme.
L'heureux jeune homme va prévenir ses camarades. Le lendemain, ils sont deux. Puis, les jours passant, les deux troupes se réunissent.
Ils mêlèrent ensuite les deux camps, chacun ayant pour femme celle avec qui il avait eu commerce d'abord.
Il y a évidemment un problème de communication, puisque les Scythes et les Amazones ne parlent pas la même langue. Mais les femmes Amazones apprennent la langue Scythe, alors que les hommes, plus balourds, n'arrivent pas à apprendre la langue des Amazones. Les Amazones changent de langue. C'est pour ça que nous ne savons rien de la langue des Amazones, ce peuple mythique. Les jeunes gens proposent à leur épouse Amazone de venir s'installer avec eux dans leur société. Elle refuse catégoriquement.
Nous ne saurions demeurer avec les femmes de chez vous, car nos habitudes ne sont pas les mêmes que les leurs. Nous, nous tirons à l'arc, nous lançons le javelot, nous montons à cheval. Nous n'avons pas appris les travaux féminins. Les femmes de chez vous ne font rien de ce que nous avons dit. Elles s'occupent à des travaux féminins. Elles restent dans les chariots sans aller à la chasse ni nulle part ailleurs. Nous ne pourrions donc pas nous accorder avec elles.
Yaroslav Lebedinsky, historien.
Bien sûr, le modèle de l'Amazone du mythe est le portrait en creux de cette femme grecque au foyer. C'est une femme libre, c'est une femme sans mari, c'est une femme qui monte à cheval et qui combat. Les Amazones mythiques se battent fort bien, elles peuvent repousser les hommes, elles peuvent l'emporter un moment. À la fin, elles sont toujours vaincues. Et d'une certaine façon, c'est probablement dans le mythe l'équivalent d'un rétablissement de l'ordre normal du monde, de l'ordre des choses, qui est un ordre masculin. L'Amazone est un phénomène anormal. À titre pittoresque, il est intéressant, il permet d'enrichir le récit mythique, mais à la fin, il convient que ce soit malgré tout le héros mâle qui l'emporte.
Les Amazones proposent à leur nouveau mari de rentrer chez eux, juste un court moment, le temps que leur famille leur remette leur part de patrimoine. Puis ils partiront ensemble fonder une société nouvelle. Les jeunes gens acceptent. Avec leurs épouses Amazones, ils vont vers le nord. Au bout de 3 jours de marche, ils atteignent une région au bord du fleuve Tanaïs, le Don, en Ukraine, et s'y installent. Selon Hérodote, cette société existe toujours au moment où il écrit son livre.
Depuis lors, les femmes mènent le genre de vie de leurs antiques aïeules. Elles vont à la chasse à cheval et avec leurs maris et sans eux. Elles vont à la guerre, elles portent le même accoutrement que les hommes. Ce peuple utilise la langue scythe que depuis les temps anciens, ils parlent de façon incorrecte, parce que les Amazones ne l'avaient pas apprise parfaitement.
La guerre reste la valeur fondamentale. Il n'y a pas de mariage sans réussite à la guerre.
Voici quelle est la règle en matière de mariage. Aucune fille ne se marie avant d'avoir tué un ennemi. Il en est qui meurt et meurt vieille avant d'être mariée, faute de pouvoir satisfaire à cette loi.
En racontant cette histoire, Hérodote, l'historien, s'amuse. Il montre à ses lecteurs grecs qu'il existe un peuple, au moins un, où les femmes peuvent être en même temps des mères fécondes et des guerrières efficaces. Ce n'est pas incompatible, alors que beaucoup de Grecs pensaient que les femmes ne pouvaient être que des mères de famille et que le travail du guerrier était par essence masculin. Hérodote fait voyager ses lecteurs dans des contrées improbables et il leur prouve que la croyance très répandue en Grèce en une nature féminine et une nature masculine figée et permanente ne tient pas. Tout dépend du type de société que l'on choisit d'établir. Mais les partisans de l'existence d'une nature féminine qui doit limiter l'activité des femmes et les confiner aux tâches domestiques ne se laissaient pas abattre pour autant. Ils pouvaient utiliser les légendes qui circulaient sur les Amazones. Après tout, ces femmes dangereuses, autonomes, cavalières infatigables et conquérantes, ennemies des hommes, qu'elles n'utilisaient qu'à fin de reproduction, quand le besoin s'en fait sentir, ne devraient pas faire les fiers. Elles ont été vaincues à plusieurs reprises par de très grands rois ou héros. Elles ont attaqué la ville de Troie et ont été vaincues par Priam, dit Homère. Elles ont été vaincues par Héraclès, qui a débarqué chez elles et en a massacré beaucoup. Héraclès ne pouvait se faire à l'idée que des femmes gouvernent. Elles ont été battues par Thésée à Athènes, par Bellérophon et son cheval Pégase en Asie, par Achille devant Troie. Après la défaite que leur a infligée Achille, on n'entend plus parler des Amazones. C'est la fin pour elles. Ces défaites massives devraient leur abattre le caquet. Les grands vainqueurs des Amazones, Priam, Héraclès, Bellérophon, Thésée, Achille, ont bien montré les limites que le genre féminin ne devrait pas dépasser, comme le rappelle l'orateur Lysias dans son éloge d'Athènes, prononcé au 5e siècle avant Jésus-Christ.
Ces femmes étaient plus voisines, à cause de leur grand courage, des hommes que de leur propre sexe. Mais elles se heurtèrent à de vaillants hommes, et leur courage devint pareil à celui de leur sexe. Leur réputation se modifia, et leur malheur, plus que leur corps, les assimilèrent alors aux femmes.
Mais est-ce si sûr ? Les Grecs anciens étaient-ils aussi binaires et aussi sommaires ? Pensaient-ils vraiment que les femmes doivent vivre comme des femmes et les hommes comme des hommes, selon des rôles bien définis ? Certains, oui, qui devaient se rassurer avec ces idées. L'épopée, la tragédie, la comédie sont pleines de ces mâles, sûrs d'eux, qui pensent avoir de forts arguments pour que les femmes ne prennent pas leur place. Mais ils sont présentés comme des caricatures qui essayent de se convaincre elles-mêmes.
L'arme de mes rêves se rapproche à pas de lourd fantasque. Je n'ai plus qu'à fouiller mes poches en sortir un lot de masques, les doter d'un juste prix à payer, les affûter comme des épées. méchante, mordante, virulente, singulière, sorcière, guerrière, tranchante, mordante, virulente, singulière, sorcière,
Dieu rôdait sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de Lacombe évoque les amours des Amazones.
Allons faire notre choix. Le blond clair est assez. Celui du troisième rôle.
Pourrais-je vous être utile à quelque chose, mesdemoiselles?
Approche-toi. Fais-moi voir tes dents.
Pas mal.
Par ici. Cela ne me déplairait pas. Seulement, je le préférerais en blanc. Tu ne trouves pas? Laisse-le-moi, je te donne le
mien. Vous pouvez me prendre votre service toutes les deux. Le travail me fait pas peur.
Et toi, Blondinet, qui es-tu?
Ménandre.
D'où viens-tu?
De la Grèce septentrionale.
Et toi, qui es-tu? Tu es tout petit. Qu'est-ce que tu fais ici?
Je suis la terreur des femmes de Syracuse. Allons-y, mes toutes belles. C'est chaud comme des cailles.
Les légendes sur les Amazones ne sont pas aussi simplistes que ces utilisations politiques. Si on regarde l'histoire de ces braves héros masculins, vainqueurs des Amazones, on voit que leur rencontre avec les Amazones, même s'ils les ont vaincus, ne les ont pas laissés indemnes. Ces femmes ont changé les hommes qu'elles combattaient. Ne serait-ce que parce que leur vigoureuse opposition au mal suscitait une attirance puissante. Amour et guerre étaient toujours mêlés. Les guerriers ne pouvaient qu'en sortir transformés. Ainsi, on nous dit que le super-héros et super-viril Héraclès a accepté très volontiers l'un de ses travaux contraints, l'une de ses épreuves imposées par son affreux cousin Eurysthée, parce qu'il s'agissait d'aller combattre les Amazones dans un pays du Nord, au bord de la mer Noire. Héraclès, toujours nuancé dans ses opinions, voulait en découdre avec elle, car il ne supportait pas que des femmes puissent diriger une société. Le but de l'expédition était à la fois militaire et amoureux. Il s'agissait d'aller ravir la ceinture de la reine des Amazones. La fille du cousin Eurysthée la voulait absolument, par caprice. Cette ceinture célèbre était en fait une pièce d'armement, un ceinturon de protection. Le dieu Arès, dieu de la guerre, l'avait donné à l'Amazone. Mais l'acte d'enlever la ceinture d'une femme a clairement aussi un sens érotique. Il signifie une conquête amoureuse. Héraclès parvient à ses fins après avoir massacré plusieurs Amazones. Selon une version plus soft de la légende, c'est après un accord qu'Héraclès serait entré en possession de cette ceinture. Il arrive même qu'on dise que la reine des Amazones aurait voulu séduire le grand héros. Héraclès, comme d'habitude, triomphe. Il croit avoir rétabli la hiérarchie entre hommes et femmes. Mais après cet exploit, il aura bien des surprises et ne sera pas toujours l'homme supérieur aux femmes qu'il pensait être. Prisonnier d'une reine d'Asie omphale, il devra passer un an vêtu en femme et accomplir des travaux dits féminins. Et comme par hasard, Déjanire, son épouse qu'il retrouve après cette captivité féminine, porte le même nom qu'une Amazone qu'Héraclès a tuée pendant son expédition. Un nom qui va bien pour une guerrière anti-homme. Déjanire, Deianeira, veut dire tueuse d'homme. Or, cette épouse, sans le vouloir, tuera son mari Héraclès à cause d'une affreuse méprise. Elle offrira à Héraclès une tunique empoisonnée, en pensant que ce n'était pas du poison, mais une drogue qui lui fera récupérer l'amour de son mari. Héraclès s'était amouraché d'une toute jeune fille, et au retour d'une guerre, il l'a ramenée chez lui. Il en est mort. Les Amazones ne l'ont pas lâché. La même chose est arrivée à un autre grand séducteur de femmes, un compagnon d'Héraclès. Il s'agit de Thésée, le grand héros athénien, le roi d'Athènes qui a donné toute sa splendeur à sa ville après sa victoire sur le Minotaure de Crète. Ce monstre, mi-homme, mi-taureau, dévorait régulièrement une délégation de jeunes gens et de jeunes filles qu'Athènes était obligée d'envoyer en Crète. Thésée a libéré sa ville de cette malédiction. C'était sa gloire. On dit souvent qu'il a participé à l'expédition d'Héraclès contre les Amazones. En tout cas, seul ou avec Héraclès, il les a combattus dans une lutte sanguinaire. Mais la reine des Amazones, qu'on appelle tantôt Antiope, tantôt Hippolyte, serait tombée amoureuse de lui et aurait permis à Thésée de vaincre. Les Athéniens aimaient bien raconter cette histoire. Le beau et viril Thésée aurait donc conduit la chef des Amazones à trahir les lois de sa communauté, puisqu'elle, la femme qui ne peut aimer les hommes, a aimé un envahisseur. On dit aussi parfois que Thésée a enlevé cette reine de force. Hippolyte, l'Amazone, en tout cas, se trouve à Athènes. Les Amazones sont révoltées par la présence de leur reine chez Thésée, que cette reine ait été enlevée ou qu'elle ait suivi Thésée de son plein gré. Elles déferlent sur le pays d'Athènes avec leurs chevaux. Commence une guerre mémorable, gagnée par les Athéniens. À Athènes, on présente la guerre contre les Amazones comme l'exploit le plus ancien qu'a accompli les citoyens de la ville. C'est la victoire fondatrice pour fonder un ordre politique qui réunisse tout un peuple masculin. Il fallait une lutte acharnée contre une cité des femmes, contre ce qu'Athènes ne voulait pas être. L'armée des Amazones va construire cette cité des femmes. Les cavalières se fixent. Elles s'installent sur une colline d'Athènes. Cette colline fait face à l'Acropole, la citadelle d'Athènes, consacrée à la déesse Athéna. Les Amazones y construisent une cité dans les règles, avec ses remparts. Elles y offrent un sacrifice au dieu Arès, le dieu belliqueux qui les aime et les protège. Depuis, cette colline porte le nom d'Aréopage, le rocher d'Arès. C'est donc cité contre cité, le rocher des femmes contre le rocher d'Athéna, la déesse si virile.
Ce mont d'Arès fut le séjour des Amazones et leur campement, quand elles vinrent par malveillance contre Thésée avec leur armée. Et face à notre ville, firent une nouvelle ville, munie de hauts murs face à nos murs, et sacrifiaient à Arès. De là tire son nom le rocher, le mont voué à Arès.
Les Amazones, comme d'habitude, face à des adversaires grecs, perdent. Thésée est vainqueur. Mais la lutte a été si difficile, les Amazones si impressionnantes, qu'Athènes construit des monuments pour célébrer leur mémoire. La cité des femmes ne peut pas être totalement effacée.
Violaine Sébillotte-Cuchet, historienne.
Dans la fiction des Amazones, elles sont actrices, elles prennent les armes, dans les récits qui sont produits, dans les représentations visuelles, mais elles sont la plupart du temps défaites, sauf dans des combats singuliers qui sont assez héroïques, que nous on va chercher en se disant « Ouais, génial, enfin une Amazone qui domine, qui y arrive,
qui est un homme. »
Mais il n'y en a pas beaucoup, elles sont comme représentées quand même aussi en belle posture, mais comme le récit général... C'est la défaite des Amazones. Donc bon, elles sont actrices, certes, mais elles perdent.
Une autre version de la légende est moins glorieuse pour Thésée. On dit que Thésée se serait lassé de son mariage avec l'Amazone et l'aurait congédié. Alors qu'il s'apprêtait à se marier avec une nouvelle femme, Phèdre, la fille du roi de Crète, la sœur d'Ariane, son ex, furieuse, aurait envahi le temple où se déroulait la cérémonie des noces, avec ses compagnes Amazones. Une bataille a eu lieu et Thésée a tué son ex-femme. Il pouvait épouser Phèdre. Mais ils ne s'en tirent pas si bien. L'Amazone avait eu un fils avec lui, Hippolyte, le délieur de chevaux. Ce fils donnera du fil à retordre à son père. Il vit comme une Amazone. Il est fou de cheval et de chasse. Or, la nouvelle femme de Thésée, Phèdre, va tomber amoureuse de ce beau jeune homme sportif qui est son beau-fils. Hippolyte, qui est une sorte d'Amazone au masculin, qui n'imagine pas se lier à une femme comme les Amazones ne se lient pas aux hommes, est horrifié par cette proposition d'amour. Il déborde de misogynie. Phèdre, désespéré, se tue. Thésée croit son fils coupable d'avoir voulu abuser de sa femme. Il ne peut pas imaginer que son fils n'ait pas eu du tout envie de le faire. Comme Hippolyte tente en vain de l'en convaincre, lui, le pur, le chaste, l'homme fermé à tout amour, à tout désir, qui n'a qu'une passion, aller courir avec ses chevaux et ses compagnons. Thésée maudit son fils. À sa demande, un taureau sort de la mer et effraie les chevaux d'Hippolyte, qui meurent fracassés sur des rochers. Le père, qui pensait disposer de tout, femme, fils, a tout perdu. Sa victoire passée sur l'Amazone, on a fait une espèce de pantin. Il y a des histoires plus jolies quand même. L'amour suscité par une Amazone, ou vécu par elle, peut créer de belles surprises. La plus belle de ces histoires est sans doute celle qui fait se rencontrer sur le champ de bataille la sublime reine des Amazones, Penthésilée, et le divin Achille. Leur combat devant Troie aura une conséquence tout à fait imprévue. Aphrodite, la déesse de l'amour, va s'en mêler. Penthésilée, Achille. Ce couple, à la fois ennemi et amoureux, va fasciner les poètes jusqu'à aujourd'hui. Virgile, le poète latin, nous donne une image impressionnante de Penthésilée, la guerrière.
Conduit son armée d'Amazone au bouclier forme de lune, Penthésilée furibonde brille au milieu de sa myriade. La sangle d'or, nouée sous ses seins exhibés, va en guerre, elle ose, vierge, combattre des hommes.
Les deux héros de cette histoire, Achille et Penthésilée, se ressemblent. Ils sont en miroir. Penthésilée est le double féminin d'Achille. Leur rencontre sera fulgurante. Déjà leur nom, Penthésilée et Achille, ont le même sens. Achille, Achilleus, peut être interprété comme celui qui apporte du chagrin, Akos, à son peuple, Laos. Achille fera en effet souffrir son peuple en refusant de combattre, puis en mourant. Le nom de Penthésilée, Penthésilea, est construit sur le même modèle, avec une terminaison féminine et non pas masculine. Avec Penthési, on retrouve le deuil, la célébration funèbre, qui en grec se dit pentos, un mot proche de pathos, la souffrance. Et avec Leia, on retrouve le mot troupe armée, peuple, Laos. De même qu'Achille fait souffrir son peuple, Penthésilée qui va périr et entraîner les Amazones dans la défaite fait souffrir le sien. Les deux ont des destins parallèles.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Situations occur when romance is a blur, it happens all the time. Send me a savior. So spare me the words that I've already heard over a thousand times. Did I fall out of favor? Cause you know what I'm like.
Pierre Judet de Lacombe raconte le coup de foudre d'Achille pour Penthésilée, la reine des Amazones.
Homère ne raconte pas l'histoire d'Achille et de Penthésilée dans son Iliade. Il s'arrête aux funérailles d'Hector, mis à mort par Achille. Or, Penthésilée et ses Amazones interviennent dans la guerre de Troie juste après. Un poète épique, légèrement postérieur à Homère, s'est chargé de raconter la légende. Son poème est perdu. Mais un poète érudit très tardif, du 3e siècle après Jésus-Christ, s'appuyant sur ce qu'il pouvait connaître de ce poème plus ancien, a mis l'histoire de Penthésilée au début d'une longue épopée, la suite d'Homère, qui raconte tout ce qui se passe entre la fin de l'Iliade et l'Odyssée. Ce poète grec, qui travaillait dans l'une des villes natales possibles d'Homère, Smyrne, l'Izmir turc, a un nom latin, Quintus de Smyrne, Cointos en grec. Ce poème épique est plutôt magnifique.
Je mourrai debout. Tu mourras à genoux.
Nous sommes juste après la mort d'Hector. Les Troyens qui ont perdu leur grand défenseur sont affolés. Ils ont peur et s'enferment à l'intérieur des remparts de Troie. Ils n'osent rien tenter contre les Grecs qui les assiègent, Achille en tête. Mais voilà, grande surprise et grand réconfort, qu'arrive Penthésilée et son armée d'Amazones, en fait 12, pour aider les Troyens. C'est la liesse à Troie. Penthésilée, la fille d'une Amazone au Trérée et du dieu de la guerre, Arès, a décidé de voler au secours du vieux roi Priam, par désir de gloire, mais surtout parce qu'elle s'est rendue coupable d'un meurtre, involontaire, mais elle est coupable. Par accident, elle a tué d'un coup de lance sa sœur, Hippolytée, alors qu'elle chassait une biche. Selon une autre tradition, c'est alors que les Amazones menaient une guerre à Athènes. Penthésilée espère que le vieux roi Priam, homme pieux et très sage, va la purifier du sang qu'elle a versé. Penthésilée arrive à Troie, non pas seulement comme chef de guerre, mais comme souillée d'un crime dont elle doit être lavée. Elle espère échapper aux mauvaises divinités, les affreuses Érinies, qui la suivent pour lui faire payer ce sang versé. Mais les Érinies ne la lâcheront pas. Penthésilée, avec sa peau de léopard, est splendide. Son arrivée fascine tous les Troyens. Elle ressemble à l'aurore.
Telle paraît l'aurore lorsqu'elle descend de l'Olympe inébranlable, le cœur enorgueilli par l'éclatante blancheur de ses chevaux. Telle Penthésilée s'avance vers la ville de Tros, superbe, au milieu de ses Amazones. Les Troyens, accourus à la ronde, l'entourent, tout émerveillés de voir la fille aux fortes jambières de l'invincible Arès. Ne dirait-on pas une immortelle ? Son visage rayonne de splendeur tout en inspirant l'effroi. Que d'attrait dans son sourire ! Sous ses paupières, quel charme et quel éclat dans ses yeux brillants comme des traits de lumière ! Quelle chaste rougeur vient colorer ses joues sur lesquelles se répand une grâce divine empreinte de mâle énergie.
Penthésilée porte sur son visage à la fois les marques effrayantes de l'acharnement guerrier et déjà les signes de l'amour, avec les sourires et les chastes rougeurs. Elle est double. Le roi Priam fait un grand accueil somptueux à Penthésilée, qui s'engage à sauver la ville et à massacrer Achille et son armée. La femme d'Hector, la désormais veuve Andromaque, ne croit pas une seconde aux promesses de Penthésilée. D'expérience, elle connaît trop bien la puissance destructrice d'Achille qui vient de mettre à bas son mari.
Ah, chétive, pourquoi tant de bravade ? Tu n'es pas de taille à combattre Achille, l'intrépide fils de Pélée. Il fera bientôt fondre sur toi le désastre et la mort. Infortuné, quel délire possède ton cœur ? Tout près de toi déjà se dresse la mort exterminatrice et la fatalité du ciel.
Andromaque, qui s'y connaît en combat et en destin, n'a pas tort. Penthésilée ne va pas tenir ses promesses. Elle va vivre son dernier jour de guerre. Au petit matin suivant, Penthésilée revêt ses armes, équipe son cheval rapide comme le vent et rassemble tous les braves. Mais la journée s'annonce mal pour elle. Zeus fait entendre le cri strident d'un aigle qui s'envole par la gauche. Il tient dans ses serres une colombe mourante. Priam frissonne. Il a compris que Penthésilée ne reviendra pas vivante du combat qui se prépare. Il pleure. Les Grecs, quand ils voient les Troyens sortir de la ville et reprendre l'offensive, ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils ne connaissaient pas Penthésilée.
Les Argiens au loin demeurent un moment interdits quand ils voient courir sur eux les Troyens et Penthésilée, fille d'Arès. Les Troyens étaient pareils aux bêtes des montagnes qui portent la tuerie et la désolation dans les troupeaux des moutons laineux. Elles, semblables au feu qui éclate dans les broussailles sèches sous les rafales du vent. On s'attroupe et on s'écrie.
Qui donc a rassemblé les Troyens maintenant qu'Hector a péri? Il y a dans leur rang quelqu'un pour les entraîner au combat. On dirait un dieu, car il projette un grand exploit.
Les Grecs ne peuvent pas imaginer que les Troyens soient conduits par une femme. Le combat s'engage, il est meurtrier. Guerriers grecs, Troyens, Amazones tombent. Et Penthésilée fait des merveilles, enfin de son point de vue. On dirait la mort en personne. Les femmes de Troie sont éblouies par ses exploits. Elles décident de prendre des armes et de se joindre à elles. À Troie aussi, la distinction entre hommes et femmes tend à s'effacer. Mais une Troyenne, plus raisonnable, leur fait comprendre qu'elles iraient à la mort, car elles ne se sont pas entraînées au combat, contrairement aux Amazones. Penthésilée progresse dans la bataille. Elle entre dans le camp des Grecs et commence à mettre le feu à leurs bateaux. C'est là que tout va changer. Le vacarme de la guerre fait se lever les deux plus grands héros grecs, Achille et Ajax, qui étaient jusque-là restés étendus au sol, à pleurer, près du tombeau de Patrocle qu'ils aimaient tant. Ils entendent le bruit des combats, prennent leurs armes et se lancent dans une contre-offensive. Ils finissent par rencontrer Penthésilée, qui les reconnaît et les défie tous les deux. Elle va leur montrer qu'elle est très supérieure aux hommes. Ajax et Achille éclatent de rire. Un premier échange de tirs n'aboutit à rien. Ajax se retire, sachant que Penthésilée sera une proie facile pour Achille, comme une blanche colombe pour un épervier. Achille rappelle opportunément à Penthésilée qu'il descend de Zeus, et il la frappe de sa lance. Il la touche sous le sein droit. Blessée, mais ayant encore un peu de force, elle veut répondre ou le supplier de la laisser en vie. Ils sont si jeunes tous les deux. Elle hésite, mais les dieux décident pour elle. Achille attaque à nouveau et la transperce, elle et son cheval, d'un seul coup de lance. Elle s'effondre pudiquement et meurt. Achille, si peu fair play, comme d'habitude, comme il l'a été avec Hector, cherche à l'humilier. Il l'injurie.
Cependant, triomphant, le fils de Pélée nargue sa victime.
Gis donc dans la poussière, pâture des chiens et des oiseaux, chétive. Qui a leurré ton esprit pour oser m'affronter? Oui, nous sommes la lumière des Grecs et le fléau des Troyens. Le tien aussi, infortuné. Puisque tu t'es laissé follement entraîner par les ténébreux trépas et par ton cœur à quitter les travaux des femmes pour aller à la guerre qui fait trembler même les mâles.
Comme fait tout guerrier vainqueur, Achille dépouille sa victime. Il lui enlève son casque et il découvre un visage fabuleusement beau.
Penthésilée, tombée dans le sang et la poussière, découvre sous l'arc gracieux de ses sourcils son visage dont la mort n'a pas terni la beauté.
Cet éclat conservé dans la mort est l'œuvre d'Aphrodite, la déesse du désir. Elle veut que Penthésilée fascine Achille par sa beauté et le tourmente d'amour. Aphrodite veut se venger de lui. Achille a fait tant de mal aux Troyens que la déesse a toujours voulu protéger. Achille est envahi par l'amour. Le vainqueur est vaincu. Il est torturé, séduit et plein de remords. Pourquoi l'a-t-il tué au lieu d'en faire son épouse chez lui? Il reste là, immobile, debout, près du corps d'une bien-aimée, inaccessible. À cause de Penthésilée, son cœur est dévoré par la douleur. Exactement comme la mort de Patrocle, l'être humain qu'il aimait le plus au monde l'avait abattu. Mais voilà qu'un affreux, un mesquin, se met à se moquer de lui. Un Grec qui se repaît d'injures et de ressentiments, un tout moche. Il s'appelle Tersite. Homère a eu l'occasion de le décrire dans son Iliade.
C'était l'homme le plus affreux venu sous Ilion. Il était cagneux, estropié d'une jambe, les deux épaules courbes, ramassées sur la poitrine. Par-dessus, il était pointu de la tête, y fleurissait un duvet rare. Achille le haïssait plus que tout, et aussi Ulysse, car il les provoquait tous deux.
Ce Tersite a bien vu qu'Achille est tombé amoureux, et il se moque de lui. Comment peut-il aimer une ennemie qui a fait tant de mal? Comment Achille peut-il se montrer si faible, lui le brave sans reproche? Les vrais plaisirs du héros, du noble authentique, c'est la gloire et accomplir des exploits.
Mais dormir avec des femmes, c'est affaire de couard.
Achille, comme on sait, est plutôt colérique. D'un coup de poing, il lui fait sauter toutes les dents. Tersite s'effondre et son âme le quitte. Ça aurait pu en rester là. Mais ce Tersite était le vague cousin d'un grand héros, Diomède, qui prend sa défense. Une guerre civile aurait pu avoir lieu chez les Grecs à cause de Tersite, à cause de l'amour d'Achille pour Penthésilée. Mais finalement, une solution est trouvée. Achille doit quitter pour un temps le camp des Grecs et aller se faire purifier de son meurtre au loin sur l'île de Lesbos par des rites. Il peut ensuite reprendre sa guerre. Penthésilée, elle, aura droit avec son cheval à une tombe prestigieuse que lui creuseront les Troyens, dans le tombeau même du fondateur de la ville de Troie. Cela n'empêchera pas Troie de s'effondrer peu de temps après. Une époque est close. Il n'y a pas eu d'amour vivant vécu entre Penthésilée et Achille. Achille reste seul foudroyé. Parfois, on fait mourir Penthésilée après le coup de foudre d'Achille. Y a-t-il eu un échange? Parfois, Achille n'est pas vaincu seulement par la beauté de Penthésilée, mais aussi par ses armes. Une légende dit que Penthésilée aurait abattu Achille, qui meurt. Mais Thétis, la mère d'Achille, arrive à le ressusciter et, revenu de chez les morts, il abat Penthésilée. L'équilibre entre les deux est rétabli. Tous les deux sont à la fois vainqueurs et vaincus. C'est le nœud de toute l'histoire. À partir de là, tout est possible. On peut inventer à l'infini. Un poète moderne a repris l'histoire de manière surprenante. Chez lui, cet instant de fulgurance, quand se révèle la beauté de Penthésilée dans une grande surprise d'amour, devient duré, devient une longue expérience, où la guerre et le désir amoureux s'entremêlent et se combattent, s'échangent à l'infini, dans un tourbillon halluciné. Ce poète extraordinaire est Heinrich von Kleist, l'auteur du Prince de Hombourg, de la Marquise d'Eau. En 1808, en plein dans les guerres napoléoniennes et sans s'intéresser à la guerre en tant que telle, Kleist écrit pour le théâtre une Penthésilée, une pièce qu'on a envie de dire démente, démesurée et incroyablement imprévisible. Dans le drame de Kleist, tout se met à trembler, à bouger. Les tourments et les passions partagées des deux héros, Penthésilée et Achille, les arrachent à toute certitude sur ce qu'ils sont. C'est prodigieux. Si vous le voulez, la semaine prochaine, nous suivrons 7 Penthésilée et 7 Achille. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugier. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tessay. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Le Chêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Valérie Lavalard et le mixage par Cédric Châtelus.